VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Chez Robin Dorsil et Tatiana Mosso, bonsoir, bienvenue à l'édition de ce lundi 3 août 2015. À la une ce soir.
10 soldats tués ce lundi dans le nord du Mali. L'attaque a eu lieu tôt ce matin dans un camp de l'armée malienne dans la région de Tombouctou.
Au Burundi, Pierre Claver Mbonimpa, un des leaders de la société civile, blessé par balle aujourd'hui à Bujumbura.
On reviendra sur la mort du général Thierry Minama, pilier du régime de Pierre Nkurunziza, dans une attaque à la roquette à Bujumbura. L'Union africaine appelle au dialogue.
Côte d'Ivoire, perpétuité requise contre un officier pro-Gbagbo, le commandant Anselme Sekayapo.
Le président Barack Obama lance un nouveau plan pour lutter contre les changements climatiques. Le dirigeant américain a d'autre part rencontré aujourd'hui quelques 500 leaders africains.
Dans moins de 10 minutes, l'économie et les sports, mais d'abord le journal.
Dans le nord du Mali, ce matin, un camp de l'armée malienne a été attaqué par des terroristes faisant 10 morts parmi les soldats maliens. Le gouvernement de Modibo Keïta assure que cette attaque, qu'il qualifie de lâche et barbare, ne restera pas impunie. De Gao, les précisions de Boubacar Touré.
Selon une source contactée sur place, l'attaque a eu lieu aux environs de 5h30 heure locale. 10 soldats maliens ont été froidement abattus, un véhicule militaire a été emporté et un autre a été brûlé par les assaillants. Un soldat blessé est admis au centre de santé. On ne sait rien de l'identité des assaillants, d'aucuns pensent que les auteurs seraient les éléments du groupe islamiste en sardine de Yad Agagali. D'autres pointent du doigt le groupe terroriste Al-Murabitoun. Cette attaque survient 2 jours après une embuscade djihadiste tendue à l'armée malienne à Nampala vers la frontière mauritanienne, faisant 2 morts et 4 blessés dans les rangs de l'armée malienne. Hier dimanche, dans la région de Gao, un commerçant de la ville a été enlevé par des hommes en armes se revendiquant du groupe terroriste Al-Mirabutun à Al-Moustra dans le cercle de Bourem. Les autorités maliennes, tout en rassurant les populations, rappellent que ces actes qu'elles qualifient de lâches et barbares ne resteront pas impunis et n'entameront en rien la détermination du Mali et ses partenaires dans le processus de paix. Gao, Boubacar Touré, VOA Afrique.
Côte d'Ivoire, perpétuité requise contre un officier pro-Gbagbo. Le commandant Anselme Sekayapo est poursuivi dans le procès de 9 officiers ivoiriens fidèles à l'ex-président Laurent Gbagbo durant la crise post-électorale de 2010-2011. Surnommé Seka Seka, l'ancien chef de la sécurité rapproché de l'ex-première dame ivoirienne Simone Gbagbo est accusé de meurtre.
Le directeur de cabinet du président gabonais Ali Bongo, Meksan Akrombesi, a été placé en garde à vue à Paris dans le cadre d'une enquête sur l'attribution à une entreprise française d'un marché public au Gabon. Il a été interpellé à l'aéroport de Roissy alors qu'il allait prendre un avion pour Libreville et puis placé en garde à vue pour corruption d'argent public étranger.
Au Burundi, le célèbre activiste des droits de l'homme Pierre Claver Mbonimpa vient d'échapper à une tentative d'assassinat. Le président de l'APRODH, Association pour la promotion des droits de l'homme et des prisonniers, a reçu 2 balles au cou et au visage. VOA Afrique a joint Innocent Mouhosi, le directeur général de la radio-télévision Renaissance à Bujumbura.
Bon, il semble qu'il a été suivi par des gens sur une moto qui l'ont dépassé et qui ont tiré sur lui, le blessant au visage et au cou.
Et maintenant, il est où ?
Il est à l'hôpital pour des soins intensifs. Il est blessé, même si ses joues ne semblent pas être vraiment en danger.
Pourquoi il a été ciblé, selon vous ?
Bon, déjà, on a vu sur les réseaux sociaux certaines accusations de personnes qu'il accusait d'être à la base de l'attaque contre le général Adolf Nshimirimana. Il prétendait que c'est lui qui a fait assassiner le général Adolf Nshimirimana, mais bien évidemment, c'était une façon peut-être de le désigner déjà ou d'anticiper ce qui allait lui arriver en faisant croire ce genre de choses auxquelles personne ne peut croire. Mais c'est certain que c'est quelqu'un qui a été à la base de la mise à jour de beaucoup de crimes qui ont été commis par les services de sécurité dans ce pays, qui était ciblé, qui avait été mis en prison, qui avait été arrêté plus d'une fois, qui avait été menacé régulièrement. Donc ce n'est pas... Moi, je crains qu'il ne se passe pour certaines personnes ce qui s'est passé déjà avec les radios, avec la tentative de coup d'État. On a vu que la tentative de coup d'État a été l'occasion pour en finir avec les radios qu'on voulait déjà fermer depuis un bon bout de temps. Et que maintenant, avec l'assassinat du général Nshimirimana Adolf, certains en profitent aussi pour éliminer tous ceux qu'ils avaient eu envie d'éliminer sans pouvoir le faire dans le passé.
Innocent Mouhosi, directeur général de la radio-télévision Renaissance à Bujumbura, joint par Eric Manirakiza. Eric, les dernières nouvelles sur ce dossier ?
L'ambassade des États-Unis sécurise maintenant l'hôpital de Pierre Claver Mbonimpa et l'ambassadeur vient d'arriver sur les lieux.
Merci.
Situation toujours tendue donc dans la capitale Bujumbura, au lendemain de l'assassinat du général Chimirimana, ancien patron des secrets services et des services secrets et proche du président burundais. Des coups de feu ont été entendus hier soir dans différents quartiers du nord de la capitale. Le point avec Christophe Nkurunziza.
Les activités étaient normales ce lundi matin dans la capitale Bujumbura. Les enfants sont partis à l'école et les différents magasins étaient ouverts au centre-ville. Deux roquettes ont été lancées dimanche matin sur la voiture du général Adolphe Nshimirimana. Il a donc été assassiné sur le champ avec ses gardes dans le quartier de Kamenge au nord-est de Bujumbura. Dans un discours hier à la Nation, le président Pierre Nkurunziza a déclaré à la radio et télévision nationale que la mort de l'ancien chef des services secrets est une grande perte pour la nation burundaise. Pierre Nkurunziza a ordonné que des enquêtes ne dépassant pas une semaine soient menées pour identifier les tueurs et les amener devant la justice. Pour le moment, au moins 6 personnes ont été arrêtées, mais la date et les arrangements funéraires ne sont pas encore annoncés. Le responsable de la cellule communication à la présidence de la République, Willy Nyamitwe, a indiqué que le pouvoir burundais a été touché en plein cœur et que Pierre Nkurunziza a été très affecté par la disparition de son ami personnel avec lequel il aimait jouer au football. Mais les membres de la société civile burundaise soupçonnent Adolphe Nshimirimana d'être impliqué dans de nombreuses exécutions extrajudiciaires et dans l'assassinat de 3 religieuses à Kamenge en 2014. Il était considéré par de nombreux Burundais comme le véritable patron de la milice Imbonerakure. Christophe Nkurunziza, Bujumbura, pour la Voix de l'Amérique.
République centrafricaine, la MINUSCA attaquée à Bangui, la force des Nations Unies et la police centrafricaine ont mené une opération visant à arrêter un responsable de l'ex-Seleka dans le quartier PK5 à Bangui, mais rien ne s'est déroulé comme prévu.
Le gouvernement soudanais a affirmé qu'il était prêt à offrir des garanties judiciaires aux mouvements rebelles qui affrontent l'armée afin qu'ils participent à des négociations à Khartoum. Le président Omar El-Béchir, recherché depuis 2009 par la CPI pour crimes de guerre dans cette région, a appelé en janvier à un dialogue national, mais aucune discussion n'a encore eu lieu.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le président américain Barack Obama a dévoilé ce lundi un plan ambitieux pour l'environnement qu'il décrit comme l'avancée la plus importante des États-Unis dans la lutte contre le changement climatique, en ciblant particulièrement les centrales électriques.
Thank you. Thank you, everybody. Thank you. Thank you so much. Thank you.
La version finale du plan américain pour une énergie propre, America's Clean Power Plan, une série de règles et de réglementations qui imposeront pour la première fois aux centrales électriques de réduire de 32% d'ici 2030 leurs émissions de carbone par rapport au niveau de 2005, doit être publiée par la Maison-Blanche.
La police israélienne a ouvert une enquête sur des menaces publiées sur les réseaux sociaux contre le président Reuven Rivlin. Il avait condamné le terrorisme juif après un incendie criminel qui a tué un bébé palestinien vendredi. Les précisions d'Idrissa Sedoudia.
L'ouverture de cette enquête a été confirmée à l'AFP par le porte-parole de M. Rivlin. Pour rappel, le jour même de l'attaque anti-palestinienne, M. Rivlin a publié sur sa page Facebook un texte en arabe et en hébreu intitulé « Plus que de la honte, je ressens de la douleur ». L'attaque, le fait de colons juifs, selon les Palestiniens, a provoqué la consternation en Israël et lancé un débat parmi Israéliens et Palestiniens sur l'impunité qu'accorderaient les autorités israéliennes aux extrémistes juifs. Aucun suspect n'a été arrêté jusque-là. On se souvient qu'en 1995, le premier ministre Yitzhak Rabin a été assassiné lors d'un rassemblement pour la paix à Tel Aviv par un activiste d'extrême droite après une campagne virulente menée par la droite contre les accords d'Oslo signés avec les Palestiniens 2 ans auparavant.
Barack Obama a invité les jeunes leaders africains à être des ambassadeurs pour le changement positif de leur continent. Il s'est exprimé lors d'un échange avec plus de 500 jeunes africains au terme d'une formation de renforcement de capacités, entre autres, dans des universités américaines. Échange placé dans le cadre de son initiative pour les jeunes leaders africains, YALI. On y reviendra en partie magazine.
Crise au Yémen. Après la reconquête de la ville d'Aden dans le sud, les partisans du président en exil ont lancé une vaste offensive pour reprendre aux combattants houthis la plus grande base aérienne du pays. Soutenue par la coalition qui dirige l'Arabie saoudite, les loyalistes cherchent à libérer Al-Nadad, une base stratégique tombée en mars aux mains des rebelles chiites.
Ils pourraient ainsi sécuriser Aden et élargir leur territoire. Les États-Unis vont accélérer leur vente d'armes aux pays arabes du Golfe, a annoncé le secrétaire d'État John Kerry. Les monarchies sunnites s'inquiètent des ambitions régionales de l'Iran, qui devrait profiter largement de l'accord de Vienne.
Qui est le leader légitime des talibans afghans? La famille du Mollah Omar refuse de faire allégeance à son successeur et appelle les chefs religieux à arbitrer. Les différents croissants sur la transition du pouvoir au sein des insurgés, c'est ce qu'a déclaré le frère du Mollah Omar. Les talibans ont annoncé le choix de son ex-adjoint, Mollah Akhtar Mansour, pour diriger leur mouvement. Cependant, la légitimité est déjà remise en cause.
Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique.
Place maintenant à la Minute Éco. Un coup d'œil sur l'actualité économique en Afrique et ailleurs avec Michel Joseph.
Le ministre ivoirien délégué auprès du président de la République, chargé de la promotion de la jeunesse et de l'emploi des jeunes, Sidi Touré, a promis pendant le week-end à Bouaké que le fonds d'aide à la jeunesse dénommé Agir pour les jeunes sera bientôt opérationnel sur tout le territoire ivoirien après sa phase pilote qui ne couvre que 10 régions du pays. Cette annonce a été faite lors d'une conférence de presse à la fin du lancement de l'édition 2015 de la caravane Jeunesse saine, protège-toi. La Suisse vient d'allouer au Burkina Faso une subvention de 12,3 milliards de francs CFA destinée au financement de la mise en œuvre du programme d'appui à la décentralisation et à la participation citoyenne. Pour une première phase, couvrant la période 2015-2018, a appris l'agence APA auprès du ministère de l'Économie et des Finances. Le financement, qui couvrira les régions du Nord, de l'Est, du Centre-Ouest et du Sahel, a pour objectif principal de permettre aux communes et aux régions de fournir de meilleurs services publics, améliorant ainsi la qualité de vie des hommes et des femmes et facilitant les activités économiques. Plus de 6,5 milliards de francs CFA seront distribués cette année au Cameroun dans le cadre du programme d'amélioration de la compétitivité des exploitations familiales agropastorales en vue de financer jusqu'en 2016 près de 8000 projets agropastoraux à travers le pays.
Merci Michel pour cette page éco.
C'est lundi, c'est plein feu sur les stades avec VOA Afrique. Salut Nicolas Pinault.
Bonsoir Chérubin.
Dans l'actualité sportive ce soir, football, on connaît le nom des pays qualifiés pour le championnat d'Afrique des Espoirs qui aura lieu au Sénégal.
En décembre prochain à Dakar, et une grosse surprise a eu lieu ce week-end, la Côte d'Ivoire a été éliminée au tir au but face à la Zambie. Après un match nul 0-0 à Abidjan, les jeunes zambiens ont donc arraché leur qualification à domicile, 4 tirs au but à 3. La Tunisie a réussi à renverser la vapeur face au Maroc, une victoire 2-0 acquise à domicile, notamment grâce à un pénalty généreux en fin de match. Quant au tenant du titre gabonais, il a été éliminé à Bamako par le Mali, 2-0. A noter aussi que le Nigeria élimine le Congo, 2-1. Ça passe aussi pour l'Algérie, l'Égypte et l'Afrique du Sud. Chérubin, on rappelle que les trois premiers de ce championnat d'Afrique seront qualifiés pour les Jeux Olympiques 2016.
Et l'Union européenne de football sanctionne le racisme.
Le club polonais du Lech Poznan a été sanctionné d'un match à huis clos et d'une amende en raison de la présence en tribune d'une pancarte raciste. C'était lors du deuxième tour préliminaire de la Ligue des champions à Sarajevo en Bosnie-Herzégovine. S'il se qualifie mercredi à Bâle lors du troisième tour préliminaire de la C1, le Lech Poznan disputera son prochain match de compétition européenne à domicile à huis clos. Le club polonais a en outre écopé d'une amende de 50 000 euros, a précisé l'UEFA sur son site internet.
Natation, l'américaine Ledecky, reine des bassins.
La jeune Katie Ledecky a battu son 8e record du monde en améliorant sa propre marque sur 1500 mètres nage libre, dames en 15 minutes, 27 secondes et 71 centièmes lors des séries des Mondiaux 2015 à Kazan, en Russie. Il s'agit du 4e record du monde que Ledecky bat sur 1500 mètres libre, une distance non olympique pour laquelle elle détient le titre mondial. L'américaine a réalisé sa performance au lendemain de sa victoire sur 400 mètres libre, où elle a conservé sa couronne.
Belle performance. Merci Nicolas Pinault pour les sports. Nicolas, que l'on retrouve à 19h, temps universel, dans Sporama.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Chez Robin Dorsil et Tatiana Mosso, en votre compagnie, place au dossier du jour.
Au Nigeria, l'armée poursuit son offensive contre les islamistes de Boko Haram. Après ses visites au Niger, au Tchad et au Cameroun, pays de la ligne de front, ainsi qu'au Bénin, le président nigérian Muhammadu Buhari s'est engagé à en finir d'ici décembre avec le groupe islamiste. Pour un éclairage, Timothée Donangmaï a joint le professeur Ali Buhari de l'université de l'État de Nasarawa à Kefi, près d'Abuja.
Suite à la visite que le président Mohamed Bouhari a rendu en République du Bénin, le résultat commence à porter des fruits escomptés. Le Bénin, bien qu'il ne soit pas concerné par les menaces de Boko Haram, va déployer 800 soldats au sein des forces multinationales pour lutter contre le fléau de Boko Haram. À ce moment que je vous parle, l'armée nigériane mène des acquis terrestres et on a libéré presque 200 personnes aux forêts de Sambisa, qui est le fief de Boko Haram. Mais parmi les gens libérés, notamment surtout des femmes et des enfants, les rebelles de Boko Haram sont maintenant à Devadand, donc souper l'armée nigériane avec les autres forces du pays limitrophe du Tchad vont mener une victoire écrasante contre Boko Haram. Le président Mohamed Bouhari lui-même vient d'affirmer aujourd'hui que d'ici décembre, on ne parlera plus de Boko Haram.
La visite du président Buhari au Cameroun était très attendue. Quelle évaluation en fait-on au Nigeria?
Les gens sont très contents parce que les régimes précédents jouaient un genre de chat et de souris avec les Camerounais. On s'entretenait ensemble, mais le gouvernement nigérien en place en ce moment-là n'était vraiment pas sincère pour faire face aux problèmes de Boko Haram. Donc le Cameroun a perdu l'espoir, mais avec l'arrivée au pouvoir du président Mohamed Bouhari, le président Paul Biya lui-même avait dépêché un envoyé spécial pour féliciter le président Mohamed Bouhari, parce qu'il sait qu'avec les nouveaux régimes en place, les Camerounais et les Nigériens vont collaborer ensemble pour lutter contre les menaces de Boko Haram.
Le professeur Ali Bouhari de l'Université de l'État de Nasarawa, près d'Abuja.
Cap sur l'est de la République démocratique du Congo pour parler de l'inauguration de la piste pour vols internationaux de l'aéroport de Goma dans le nord Kivu. Cette piste retrouve sa longueur d'origine de 3000 mètres, 13 ans après la coulée de lave du volcan Nyiragongo. Ce lundi, le président Joseph Kabila l'a inauguré et lancé en même temps les travaux pour la construction d'une tour de contrôle et d'un aérogare. On écoute le reportage de Charlie Kasereka, notre correspondant à Goma.
Après 10 ans de travaux sur cette piste, lesquels travaux étaient entrecoupés par des guerres à répétition dans et autour de Goma, enfin, la piste de l'aéroport international de Goma vient de recouvrir sa longueur initiale de 3000 mètres qui était amputée d'environ 1000 mètres par la coulée de la lave du volcan Nyiragongo en 2002, ce qui a causé dans un espace de 10 ans plus de 5 accidents de crash d'avion. Pour le gouverneur de la province du Nord Kivu, la modernisation de cet aéroport va non seulement ouvrir la ville de Goma au monde, mais l'économie aussi sera boostée. Ici, Gilles Paloukou, le gouverneur du Nord Kivu.
Grâce à cette réalisation, des gros porteurs vont décoller et atterrir sur Goma. Des compagnies internationales vont être plus nombreuses. Des emplois vont devoir se créer. Des jeunes vont être encadrés pour ainsi limiter la prétention d'aller chercher la vie dans les rangs des groupes armés.
L'aéroport de Goma se dotera aussi de nouveaux équipements pour renforcer la sécurité aérienne sur l'espace de Goma, rassure le directeur de la régie des voies aériennes en RDC.
La RVA a entrepris plusieurs autres travaux d'équipement pour l'amélioration de la sécurité et de la sûreté de l'aéroport de Goma. Il s'agit notamment de l'installation d'un vol de deux mains de nouvelle génération, qui est un système de traceur de route aérienne, de l'installation d'un détecteur de bagages au rayon X, ainsi que de la mise en place d'un système de balisage illuminé de pistes définitif.
L'événement n'a pas laissé inanime les Gomatraciens qui, selon certains, c'est un espoir qui vient de renaître.
La modernisation de ces infrastructures, même les pays de la sous-région vont en profiter largement parce que c'est un aéroport qui va accueillir beaucoup de compagnies internationales.
J'ai très bien applaudi, j'ai même sursauté quand j'ai suivi le discours du ministre et le discours du gouverneur. Cela ne dit pas que nous n'allons pas continuer à dire nous attendons l'œuvre, nous attendons la matérialisation. Nous attendons Ethiopian Air commencer à voler ici.
Les opérateurs du secteur minier pensent que l'ouverture de l'aéroport de Goma aux vols internationaux va faciliter l'évacuation de leurs marchandises qui, cette fois-ci, ne va plus transiter dans les pays voisins comme c'est fait actuellement. Ici, Seninga Jean Bosco, un opérateur du secteur minier œuvrant dans la cité de Rubaya à Masisi.
Vous savez que les minerais aussi, ils ne sont pas consommés ici. Ça fait objet d'une exportation. D'où ça va attirer les investisseurs à venir acheter.
Depuis Goma, Charlie Kasereka pour la VOA Afrique.
Retrouvez La Voix de l'Amérique en RDC sur Radio Mungano à Beni, au Nord Kivu, sur 95.10 FM.
Coup d'envoi ici à Washington de la seconde édition du sommet Yali, l'initiative du président Barack Obama pour les jeunes leaders africains. Les précisions de Timothée Donangmai.
On behalf of the American people, welcome to the United States. We are thrilled to have you here.
Le chef de l'exécutif américain a souhaité une chaleureuse bienvenue aux 500 jeunes leaders conviés à Washington pour ce sommet. Rappelant son récent séjour au Kenya et en Éthiopie, le président des États-Unis s'est dit résolument optimiste au sujet du continent.
Even as Africa continues to confront many challenges, Africa is on the move. It's one of the fastest growing regions in the world.
Bien que l'Afrique continue d'être confrontée à de nombreux défis, l'Afrique est un continent en marche. C'est l'une des régions du monde connaissant la plus rapide croissance et les projections situent la croissance de la classe moyenne africaine à plus d'un milliard de consommateurs, a dit le président Obama. Pour Barack Obama, la jeunesse africaine est le moteur de cette transformation du continent qui s'est traduite par des gains sur divers fronts, notamment la lutte contre les maladies et la pauvreté. Le chef de l'exécutif américain a cité plusieurs jeunes Africains qui contribuent au développement de leur pays et de leur communauté. L'initiative Yali vise justement à leur donner accès aux ressources dont ils ont besoin pour réaliser leurs projets et travailler ensemble sur des idées novatrices, a-t-il souligné. Barack Obama a annoncé la mise en œuvre de sa promesse l'année dernière d'ouvrir des centres régionaux de leadership du programme Yali en Afrique.
And in Kenya, I had a chance to visit the Regional Leadership Center in Nairobi.
Au Kenya, j'ai eu l'occasion de visiter le centre régional de leadership de Nairobi et ce matin même, nous avons ouvert un centre régional à Accra. Deux autres ouvriront leurs portes d'ici la fin de l'année à Pretoria et Dakar. Des compagnies comme Microsoft, Procter & Gamble, Mastercard et bien d'autres encore se sont engagées à fournir plus de 80 millions de dollars d'aide financière et matérielle à ces centres. Il ne s'agit pas uniquement de faire venir des jeunes Africains à Washington, a fait savoir le président Obama à l'attention des jeunes réunis à Washington.
Up to 80 young American leaders will join Yali and go to Africa to learn from you and your countries.
Jusqu'à 80 jeunes leaders américains rejoindront le programme Yali pour se rendre en Afrique et apprendre de vous et de vos pays, a déclaré le chef de l'exécutif américain. Le réseau Yali compte maintenant plus de 140 000 membres et le président Obama a annoncé que le nombre de jeunes participants au sommet annuel de Washington passera de 500 cette année à 1 millier l'année prochaine.
Merci Timothée Donangma. Il faut dire que Bagassi Koura a fait le déplacement pour ce sommet. Alors Bagassi, si l'on revient sur les points forts des échanges d'aujourd'hui entre Barack Obama et ses jeunes leaders africains, vos impressions ?
Alors, ils étaient quand même assez encouragés hein, parce qu'ils ont entendu de la bouche du président américain, Barack Obama, qui les a rassurés. Hein, il dit que le programme va être institué, même si lui quitte la Maison-Blanche dans 18 mois. Il a aussi annoncé $1 milliard qui vont être investis donc, pour l'entrepreneuriat sur le continent. Et donc, il a aussi parlé de ce programme Yali, la création des centres de leadership sur le continent, au Kenya, au Nigeria, au Sénégal et aussi au Ghana. Tous ces quatre centres seront mis en place au plus tard à la fin de l'année. Et Barack Obama a évoqué surtout les questions, les mots qui mènent à l'Afrique, notamment l'islamisme et aussi l'extrémisme en Afrique, au Nigeria et en Somalie. Il a parlé aussi de la corruption.
Alors, Bagassi Koura, quels sont les points essentiels que vous avez relevés dans les questions posées par ces jeunes leaders africains au président américain ?
Eh bien, il y a cette question, hein, je parlais tout de suite de la discrimination. Il y a cette jeune dame albinos du Kenya qui a interpellé Barack Obama pour lui demander à ce qu'il allait faire pression sur les leaders africains pour qu'ils respectent le droit des personnes, des albinos sur le continent. Et Obama a dit que c'est quand même regrettable que de nos jours, certaines pratiques continuent d'exister. Il dit que c'est bien de respecter la tradition, mais certaines choses, comme par exemple les brimades faites aux personnes donc handicapées, aux albinos, ou même l'excision, doivent s'arrêter parce que ça ne doit pas être perpétué. Et il dit que la société évolue sur la base de nouvelles connaissances, sur la base de nouvelles sciences, et l'Afrique devrait s'adapter à cela et mettre fin à ce genre de discrimination. Il a même parlé de l'orientation sexuelle, qui fait souvent beaucoup de vagues sur le continent. Obama a dit, si vous n'êtes pas capable de supporter quelqu'un qui a une différente orientation sexuelle que vous, c'est que vous devrez penser comme un raciste.
Et parlons plus précisément de la condition des femmes sur le continent, qu'a dit le président ?
Eh bien, Obama a eu des mots que les femmes qui étaient présentes ont beaucoup appréciés. Il dit que ce n'était pas normal que l'Afrique évolue à deux vitesses parce que les femmes travaillent beaucoup plus que les hommes. Il dit que pour connaître la santé économique d'un pays, il suffit seulement de voir comment ce pays-là traite ses femmes. Et cette formule a été reprise à plusieurs reprises donc, par les intervenants que nous avons interviewés après son discours. Donc Obama a encouragé donc ces jeunes leaders à essayer de changer cette perception au niveau de leur pays, ces pratiques au niveau de leur pays, pour que les femmes ne soient plus considérées comme des gens jouant un second rôle dans le développement économique.
Voilà, merci Bagassi Koura qui a fait le déplacement pour couvrir ce sommet Yali, le deuxième ici à Washington entre le président Barack Obama et 500 jeunes leaders africains. Merci Bagassi.
Salut les amis, ici Roger Muntou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h, temps universel. Au menu, le top 10 American Music, les nouveautés de la musique américaine. Vos commentaires sur notre page Facebook, Roger Muntou, la voix de l'Amérique. Et vos SMS au 225-58-9240. Je répète, 225-58-9240. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
When I need motivation, my one solution is my queen, cause she stays strong. Yeah, yeah. She is always in my corner, right there when I wanna. All these other girls are tempting, but I'm empty when you're gone. And they say, do you need me? Do you think I'm pretty? Do I make you feel like cheating? I'm like, no, not really, cause oh, I think that I found myself a cheerleader. Always right there when I need her. Oh, I think that I found myself a cheerleader. She is always right there when I need her. She walks like a model.
Et c'est la fin de cette édition du Monde Aujourd'hui. La mise en onde a été assurée par Lionel Gaïma, était à la console Justin. Présentation Tatiana Mosso et Chérubin Dorcy.
Ainsi va Le Monde Aujourd'hui. Retrouvez-nous sur Facebook et bien sûr, on est ensemble 24h sur 24 sur voaafrique.com.
Écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone.
N'Djamena sur 93.1 FM, Clédou FM Bamako, Raga FM Goma, 96.5 Fraternité FM, Parakou Bénin et bien d'autres encore, sans oublier sur Ondes Courtes. Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.